la French Connection, épisode 56. Cette semaine, je suis avec Vincent.
Salut!
Et c'est finalement juste avec Vincent, les autres étant en congé de la fête du travail et profitent de du temps assez moyen à l'extérieur. Cette semaine, on va parler de moyen d'utiliser le Wi-Fi pour détecter des explosifs. Une faille de Windows à travers Twitter, fuite de données dans les poubelles des écoles et des fuites de données chez Air Canada, qui nous ont tous envoyé un courriel cette semaine. Les GMS Plug, 27 septembre, la gouvernance et gestion des TI au gouvernement par Isaka. Le 28 septembre, Québec Sec, l'architecture d'entreprise. Le 2-3 novembre, naturellement, c'est le Hackfest, à ne pas rater. Le 8 novembre, le CSAW à Valence, un événement très intéressant également. Et finalement, le 8 avril 2019, Québec Numérique présente l'événement Secure, un nouvel événement de sécurité. Donc, commençons avec les nouvelles avec Vincent, du Wi-Fi qui détecte des explosifs.
Oui, petite nouvelle intéressante, j'ai malheureusement pas de suivi, fait que c'est tout simplement un petit survol sur des chercheurs américains qui ont mis au point un détecteur de métal et de liquide qui fonctionne à l'aide d'un simple réseau Wi-Fi. Bien entendu, ce système-là, ça ouvre la voie à une sécurité accrue à peu près dans de nombreux endroits publics. Tout le monde aura deviné les McDo, les Tim Hortons, les Starbucks, etc., etc., partout dans le monde. On verra aussi des métropoles Wi-Fi, etc., etc. Pour y parvenir, c'est une équipe de cinq chercheurs qui a étudié des interférences dans les ondes Wi-Fi d'un réseau ordinaire lorsqu'un objet dangereux est placé près des antennes. En effet, bon, les ondes changent de direction lorsqu'elles passent à travers certains matériaux, puis dans d'autres cas, elles sont totalement réfléchies. Alors, en plaçant deux paires d'émetteurs-récepteurs de façon stratégique, il est possible d'analyser les interférences pour deviner la forme d'un objet dissimulé dans un sac et déterminer s'il est en métal ou s'il contient du liquide. Bon, les scientifiques indiquent que leur système est capable d'identifier le matériau d'un objet dans 95 % des cas et sa forme dans 90 % des cas, ce qui est un très bon niveau de confiance. Et puis, bon, l'avantage de leur dispositif, c'est qu'il est facile à installer et qu'il est peu coûteux, selon les chercheurs. Le système peut être facilement déployé dans nombreux endroits qui n'ont même pas d'infrastructure de contrôle de sécurité. Des parcs, des musées, stades, stations de métro. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis cela. Il y a des systèmes de sécurité physique dans les stations de métro, mais bon, c'est limité. Les gares de train, des lieux pittoresques également. Un système comme celui-ci pourrait contribuer à réduire, par exemple, les risques pour le public lors d'un rassemblement. L'exemple donné ici, c'est le fameux marathon de Boston il y a quelques années, ou en 2013, justement. Deux individus ont déclenché une bombe dans la foule près de la ligne d'arrivée qui a créé une pas pire chasse à l'homme, ainsi qu'un film avec un très bon acteur, Mark Wahlberg. Alors, produit intéressant à suivre. Celui-là, je me mets une petite note parce que effectivement, moi, je trouve que pour un petit système comme celui-là, comme il dit, à peu de frais, là, c'est fort intéressant.
Ouais, ben c'est un peu la recherche du Saint Graal de détection des éléments dangereux. Ces compagnies-là qui vont trouver des mécanismes qui vont. Là, on parle plus. Moi, je suis plus préoccupé par les aéroports, mais des équipements qui permettent justement de détecter facilement, rapidement, toute menace qui peut se présenter pour la sécurité et qui va réduire toutes les contrôles de sécurité. Qui ralentissent le processus dans les aéroports, je pense qu'ils vont faire beaucoup, beaucoup d'argent. Ça va être beaucoup, beaucoup utilisé.
Oui, puis écoute, ça va devenir intéressant parce qu'en plus de la fameuse fouille aléatoire qui peut se produire lorsqu'on passe les barrières de sécurité dans un aéroport, ces fouilles aléatoires-là vont pouvoir avoir un meilleur degré de précision au niveau du choix aléatoire. En fait, le choix risque d'être moins aléatoire sur les individus. Comme tu l'as dit, accélérer justement le trafic humain à cet endroit-là, parce que c'est toujours un goulot d'étranglement très irritant.
Ouais, en tout cas, ça, si ça peut alléger ça, je suis absolument pas contre ce genre d'amélioration-là. Passons à la nouvelle suivante. Air Canada a connu une fuite de données dans la dernière semaine. Plusieurs de ses utilisateurs de son appli mobile ont reçu un courriel les avertissant qu'il y aurait eu des activités suspectes, qu'il y aurait eu présence sur la dite application. Et par mesure préventive, Air Canada a bloqué l'ensemble des comptes et a obligé un changement de mot de passe à l'ensemble de ses utilisateurs. C'est une mesure à la fois qui semble extrême, mais qui, je crois que s'il y a un doute raisonnable que la sécurité peut être affectée, vaut mieux agir rapidement dans ce cas-ci, puis d'inciter les gens à modifier dans ce cas-ci leur mot de passe, puis de verrouiller tous les comptes d'un coup au lieu de te ramasser avec un cas un peu comme l'autre, la compagnie de sport qui vend pour les inscriptions des clubs sportifs, où il a testé des affaires un peu aléatoires sans avertir la clientèle. Je pense que dans le cas d'Air Canada, on doit lever le chapeau sur la rapidité perçue dans laquelle ils ont agi pour arrêter cette petite menace-là, sans qu'on connaisse autant de choses. Je crois que c'est une belle façon d'adresser ça rapidement. Puis, c'est ça.
Moi, j'ai reçu le courriel peu après que notre collègue Zataz nous informe. Merci, Zataz. Et puis, j'ai essayé le processus de réinitialisation de mot de passe. Ça n'a jamais fonctionné. Le temps réponse était très médiocre. Est-ce que c'est parce que comme par hasard, tout le monde était en mode de réinitialisation, parce qu'on peut comprendre que les gens qui utilisaient l'application pendant qu'ils attendaient à l'aéroport, ils ont dû avoir une mauvaise surprise pour voir si les vols étaient retardés, annulés ou à l'heure, ou s'ils changeaient de gate parce que les comptes étaient bloqués. Toutefois, moi, ça depuis mardi, mercredi, quand j'ai reçu l'annonce, j'ai finalement abandonné après une vingtaine de reprises. J'ai toujours une réponse déficiente du système, comme de quoi on peut pas atteindre. Le serveur est inatteignable. Mais bon.
Moi, j'ai pas pris le temps de faire la modification encore, justement parce que je m'attendais à ce que le système soit surchargé et ne puisse pas tolérer la charge. De un, puis de deux, mais j'avais pas nécessairement le temps cette semaine à passer du temps justement à essayer 20 fois et me péter à la face 20 fois, puis être frustré, puis abandonner de façon définitive de toute mesure protectrice. Fait que je regarderai ça en fin de semaine, puis si c'est plus concluant, on fera un suivi lors du prochain épisode. Bon.
Ouais.
Passons à la nouvelle suivante. Une faille dans Windows.
Ben oui! Il y a un utilisateur de Twitter qui a été plutôt... qui était de mauvaise humeur. Puis qui a livré les détails d'une vulnérabilité Zero Day de Windows. Bon, au moment de la nouvelle, quand j'ai lu l'article cette semaine, bon, il n'y avait aucun correctif connu qui était encore disponible. C'est lundi, l'utilisateur de Twitter qui s'appelle Sandbox Escaper, il a révélé l'existence d'une faille sur la plateforme de microblogging, telle que rapportée par The Register. Le bonhomme a déclaré, j'en ai plus rien à de la vie, je ne veux plus jamais me soumettre à Microsoft, fuck toute cette merde. Bon, l'utilisateur indique un lien vers GitHub qui semble contenir une preuve de concept de la vulnérabilité. En fait, c'est une exploitation locale, mais mauvaise surprise quand même pour Microsoft. Après la publication, Will Dorman, analyste des vulnérabilités au CERT, a vérifié mardi le bug, ajoutant que la faille fonctionnait sur des systèmes Windows 10 sans les 4 bits entièrement patchés. La vulnérabilité est décrite comme une faille de sécurité d'escalade de privilèges locale dans le planificateur des tâches de Microsoft, causée par des erreurs dans la gestion des ALPC. Les Advanced Local Protocol. S'il est exploité, le bug permet aux utilisateurs locaux d'obtenir des privilèges système. Ah tiens, intéressant. C'est tout le temps, c'est le fun d'avoir des privilèges système. C'est mal, mais c'est le fun. Comme ALPC, c'est un système qui est local. Bon, l'impact est limité, mais la divulgation publique d'une Zero Day est probablement un casse-tête pour le géant Redmond. Il n'existe aucune solution de contournement connue pour cette vulnérabilité qui a reçu un score CVSS. Vous irez lire la nouvelle, ça ne vous dira absolument rien. Vous irez chercher en fait les échelles CVSS là, pour pouvoir interpréter les scores qu'il y a ici. Le tweet de Sandbox Escaper a depuis été supprimé. Cependant, Microsoft a reconnu l'existence de la faille, affirmant qu'il mettra à jour de manière proactive les périphériques impactés dès que possible. Bon. Merci Microsoft, on ne s'attendait pas à moins de vous. Ça devrait intervenir, selon eux autres, le 11 septembre pour le prochain, ce qu'ils appellent le Tuesday Patch de Microsoft, bon, à moins que Microsoft ici décide de publier le correctif hors de son cycle.
Ouais, ça, c'est toujours la question. Ouais, ça, c'est toujours la question. Est-ce que le cycle normal comme ça ne nous met pas vulnérables pendant des périodes indéfinies? Là? Je sais que pour les entreprises, c'est plus commode, là, mais pour, il me semble que de vivre avec des vulnérabilités comme ça. Mais.
Écoute, si tu veux mon avis, moi, la façon dont j'interprète ça, t'as le cycle normal, oui. Ça te prend un cycle d'urgence. Bon, appelons-le comme ça. Surtout que Twitter, c'est une plateforme publique. Ça a été même repris par des journalistes. J'ai pris ça de ZDNet. Ça veut dire qu'il y a des milliers de personnes, des bonnes et des mauvaises personnes, qui sont tombées là-dessus. Oui, Nick, ça met à risque là, si on se fie au cycle à ce moment-là. Surtout quand il y a une divulgation comme ça. Il devrait y avoir une track, une fast-track, justement, pour le déploiement de correctifs. Les entreprises devraient être assez alertes aussi à ce niveau-là. Là. Peut-être qu'il y a beaucoup d'entreprises bancaires, des institutions, institutions médicales qui ont peut-être envoyé justement des requêtes à Microsoft en disant « Hey, fouillez-vous les comptes parce qu'on ne pourrait pas se permettre une exploitation de ce file-là. » Mais bon,
ouais, je suis un peu d'accord avec celle-ci. Là. En tout cas, je trouve ça un peu inconfortable de savoir qu'il y a autant de vulnérabilités que ça qui existent et ne sont pas corrigés avec autant de célérité que ça devrait l'être. Passons à la dernière nouvelle qui avait été rapportée principalement par Damien, qui avait eu une fuite de données dans les poubelles d'une école de Lille dans laquelle il y aurait eu des données très, très sensibles par ailleurs qui auraient été jetées à la poubelle. Puis dans l'ensemble de l'histoire, puisque quand même Damien a fait... un suivi sur cette histoire-là. Il y aurait eu des erreurs de manipulation sur les 10 papiers. Ils auraient été jetés sans être déchiquetés. Les personnes ont changé, enfin les congés, et ainsi de suite. Donc, il y a eu un vice. On pourrait probablement dire un vice de processus ou de procédure où les gens en place étaient mal informés ou mal aiguillés. Et on revient toujours au fait que, même dans le monde physique et papier, c'est facile de faire des erreurs et de se tromper. Puis dans le monde numérique, c'est encore pire où l'information est d'une fluidité extraordinaire. Donc, c'est comment habiliter les gens à savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire avec l'information, faire attention dans ce cas-ci, je dirais, c'est à la limite que tout papier soit déchiqueté de facto sans se poser de questions. Mais Damien, dans son article, avait soulevé des points intéressants où il y a un certain nombre d'informations qui doivent être conservées aussi selon des délais prescrits, parce que c'est quand même une institution qui d'enseignement, donc sont quand même contraints à un certain nombre de règles. Et au Québec aussi, on a un certain nombre de règles d'archivage qui sont obligatoires pour la plupart des institutions publiques. Donc, il y a comme une balance entre les deux qui est à trouver. Mais dans ce cas-ci, c'est un peu désastreux de ramasser de autant d'informations que ça dans les poubelles, comme ça se faisait il n'y a pas si longtemps qu'on faisait du dumpster diving et on réussissait à trouver des mots de passe pour accéder au mainframe.
Pour accéder au Gibson.
Wow, Gibson.
Comme dans l'excellent film Hacker.
Ouais, c'est pour faire une référence directe dans l'espace cinématographique dans lequel on est habitué, oui. Et d'ailleurs, ouais. Je me suis rendu compte cette semaine qu'il y avait une référence directe dans la série Mr. Robot au film Hacker. J'ai trouvé ça fort intéressant.
Donc. Dis-moi donc, oui. il y avait pas un concept. Il y avait dans la nouvelle, à Damien, je l'ai lu. Il n'y avait pas un concept aussi d'un cadre législatif particulier dans le cadre d'informations d'institutions publiques, ce qui laissait un peu naviguer en zone grise si le geste était, comment je vais dire ça, là, en très peu de mots, Le geste avait une certaine gravité, mais d'un autre côté, n'était pas si grave que ça. En fait, ce que je disais au niveau du corps législatif, moi, ça me disait que l'information est confidentielle. On peut pas se permettre un cadre à deux vitesses. Ça prend une méthode uniforme, peu importe le cadre, justement pour les délais de prescription, pour la conservation, puis les mécanismes de destruction, peu importe justement là, le cadre, parce que ça m'avait laissé un petit peu amer de lire ça, là. C'est comme si c'était au final pas si grave que ça, mais on sait très bien que c'est grave. Est-ce que je
Ben,
me trompe?
oui.
C'est cette nouvelle-là,
Ben,
hein?
oui, c'est bien cette nouvelle-là. Puis c'est ça un peu, je faisais référence au fait qu'il y avait des règles d'archivage. Il y a une panoplie de choses qui sont peut-être contradictoires, comme tu mentionnes, dans ces règles-là. Ça revient sur le fait que si les règles sont pas claires, c'est-à-dire que les humains qui vont les appliquer ont encore plus de chances à faire des erreurs de manipulation, donc de mener à des situations malheureuses dans lesquelles Damien montrait certaines images qui étaient récupérées, puis c'est quand même des informations suffisamment sensibles qui peuvent favoriser un vol d'identité, par exemple. Donc, c'est un peu dommageable, un peu triste, tout ça.
Oui, effectivement.
Donc, ça fait le tour des nouvelles pour cette semaine. Donc, on vous souhaite une bonne semaine.
Ben oui, bonne semaine.
destroy this world.